L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, toujours depuis San Francisco. Je suis ravi d'être avec vous, bien sûr. Tout à l'heure, on retrouvera le dossier de l'atelier US. On va parler Family Tech avec Arnaud, notre World Tour aussi, en compagnie d'Aurore Géraud. Mais dans l'immédiat, c'est notre passion selon Sanet et on va s'intéresser à l'art numérique et faire un point justement sur l'art numérique cette semaine. Est-ce que l'artiste de demain sera-t-il un programmateur? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer que l'art soit aussi dans la réalité virtuelle. Entre autres, en tout cas, c'est une application qui est assez bouleversée. Lila Megrawa, on va en parler avec votre invité cette semaine.
Mais oui, tout à fait. La réalité virtuelle était d'ailleurs l'une des thématiques du festival Bain numérique, dont on a le plaisir de recevoir le directeur, Dominique Roland. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Dominique Roland, comme je le disais, vous êtes spécialiste de cette discipline qui est l'art numérique. Vous dirigez le festival Bain numérique et vous dirigez également le Centre des arts d'Enghien-les-Bains. Vous êtes vous-même artiste, réalisateur notamment. Alors, revenons un peu sur les définitions. L'art numérique, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que dès lors que l'art va avoir recours au numérique, l'art devient numérique? Ou est-ce qu'il faut que le numérique soit un élément indispensable du dispositif mis en place?
Je crois que l'art numérique est un art d'abord qui est né de l'interdisciplinarité d'abord et puis ensuite aujourd'hui on parle de transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il est traversé par tous les modes d'expression artistique que l'on connaît, que ce soit le spectacle vivant, c'est-à-dire la danse, c'est-à-dire la musique, bien sûr les arts sonores, les arts visuels également liés au cinéma ou à la photographie, et puis enfin c'est un art que l'on ne peut pas dissocier des technologies de l'informatique, puisque c'est un art qui est né à partir des années 1960, et puis avec l'accélération des moyens informatiques, de la puissance informatique, eh bien, les artistes sont dans le fond nés avec cette hybridation, c'est-à-dire en utilisant des techniques et en utilisant l'informatique comme moyen, d'expression dans leur écriture.
Est-ce que du coup, c'est un art qui est nécessairement visuel, qui va forcément reposer sur des écrans?
C'est un art avant tout, je crois, c'est un art qui touche la perception. Finalement, nous sommes plus simplement dans un art contemplatif, si nous prenons les arts visuels, où nous étions face à une peinture, face à une œuvre architecturale. Et là, nous avons l'interaction, c'est-à-dire le spectateur a son mot à dire. Le spectateur interagit avec ce qu'il va voir. Et même, il participe dans le fond, un mode d'écriture qui engage, comme le dit Maurice Benayoun, il parle d'open art, il parle d'art ouvert, c'est-à-dire, dans le fond, un acte...
D'open source, en fait.
Oui, mais en même temps, un acte dans notre société, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de penser, et surtout liée aux pratiques numériques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les artistes portent des contenus, mais aujourd'hui, le spectateur fait partie du processus de le regard sur les œuvres, et bien il y participe aussi.
Est-ce que vous auriez un exemple d'œuvre artistique qui mettrait au cœur de son propos le spectateur, qui ferait participer le spectateur? Est-ce que vous avez un exemple en tête?
Je pense comme artiste, je pense à Alex Verrest qui est une artiste qui a d'ailleurs eu un prix d'Ars Electronica et qui nous invite finalement, nous trouvons devant une œuvre finalement numérique, c'est-à-dire sur un écran, nous sommes plus devant une peinture, mais devant un écran. Et sur cet écran, nous avons une pièce avec des personnages qui sont un petit peu comme dans la Sainte Famille. Alors, c'est traité avec tout l'art de la composition que l'on retrouve dans la peinture. Mais là, nous sommes avec des mouvements. Et nous, en tant que spectateurs, nous allons faire un numéro de téléphone. Et ce numéro, va sonner dans l'œuvre visuelle. Et là, on va voir les personnages s'animer. On va voir un papillon passer. Et on entend tout l'espace sonore qu'il y a dans cette scène avec une intrigue. Alors là, oui, il s'agit d'interaction avec le spectateur.
Vous êtes déjà au à la 9e édition du festival Bain numérique. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voyez revenir chaque année ou plutôt tous les deux ans, puisque ce festival, il s'agit d'une biennale? Alors j'ai vu cette année pas mal de spectacles autour de la réflexion homme-machine, mais également autour de la data. Ça, c'est des sujets qui reviennent souvent.
Je crois que depuis qu'on parle d'art numérique, dans le passé, on parlait beaucoup d'art technologique. Mais le jour où on a commencé à parler d'art numérique, on a commencé à parler évidemment des rapports entre hommes et machines. Et la robotique est un exemple. Comment des metteurs en scène dans le théâtre aujourd'hui écrivent une dramaturgie d'un rapport entre un robot et des humains? Comment des chorégraphes écrivent avec ces machines et des danseurs? Et évidemment, il y a une partition, je dirais, du mouvement qui se fait différemment. Et ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on s'aperçoit que même les artistes utilisent à contre-pied finalement ce qui pourrait être nous faire peur d'un robot, c'est-à-dire qu'ils les rendent fragiles. Les robots tombent, sont des machines très fragiles comme les humains, et finalement, comme dit un artiste spécialiste de la robotique, eh bien, il suffit d'enlever la prise. Alors si ça peut être quelque chose de rassurant, on utilise la robotique dans plusieurs domaines. Il y a aussi l'intelligence artificielle, bien sûr, où des laboratoires travaillent sur les sentiments, sur les émotions. Finalement, il y a à la fois un effet de leurre et à la fois l'utilisation, ce qui est le cas de Motor Cortex, qui a été le prix spécial du jury dans cette 9e édition du Festival International des Arts Numériques, où nous avions Monsieur Georges, c'est tout simplement un skateboard. C'est-à-dire que nous sommes plus avec un humain. C'est sous son regard que nous traversons la ville. Ce skateboard se promène. Nous arrivons dans une mise en page de à la fois d'écran où nous traversons la ville. Et bien sous son regard, et dans le fond, ce Monsieur Georges est tout simplement un objet qui s'apparente à la robotique et qu'utilise en même temps pour que son regard on puisse voir ce qu'il voit. Et bien on se sert évidemment de l'usage de l'audiovisuel.
Alors, comme le mentionnait interrogé François en tout début d'interview, est-ce que de ce que vous observez, ces artistes numériques tendent à devenir de plus en plus programmateurs, codeurs? Est-ce que l'artiste de demain sera nécessairement programmateur selon vous?
Alors, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons des artistes comme Adrien Mondeau qui sont vraiment, alors à la fois qui programment, qui ont une formation d'ingénieur, ensuite de jongleur, c'est-à-dire ayant travaillé sur les arts du cirque, et puis ensuite sur la danse. Alors, c'est un curieux mélange, mais tout le monde n'a pas ce talent. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité à la fois technique et en même temps sensible de pouvoir produire une écriture, de produire une œuvre. Alors, ce qui se passe le plus souvent, c'est que nous avons un changement des métiers dans les métiers artistiques. C'est-à-dire aujourd'hui, la question de l'auteur, du réalisateur, elle n'est plus hiérarchisée. C'est-à-dire que nous avons des combinaisons d'artistes qui sont programmeurs sur le son, sur l'image, qui travaillent avec de l'informatique, et qui travaillent avec un chorégraphe, qui travaillent avec un musicien, qui vont travailler avec un réalisateur. Et c'est dans le fond un travail d'équipe. C'est dans ce sens qu'il y a ceux qui ont la capacité de le faire eux-mêmes, et il y a d'autres qui travaillent avec ces petites équipes. Donc là, nous avons quelque chose qui est finalement un changement de statut pour les artistes, puisque on peut parler de collectif souvent, on peut parler d'équipe artistique au sens plein, même sens de droits d'auteur.
Est-ce qu'on pourrait dire que quelque part le code codé va relever de la chorégraphie?
Je crois que le code, il y a un très bon exemple, c'est avec Rocio Beringer, qui est une artiste chorégraphe qui a eu le prix de la 8e édition de la Biennale. Eh bien, Rocio Beringer est dans le fond, tout son travail de chorégraphe est un travail à la fois sur la mémoire, sur sa propre mémoire, puisqu'elle a pratiqué beaucoup le flamenco. Alors on pourrait se dire, ah tiens, voilà, ressurgir une danse tout à fait traditionnelle, finalement, et elle utilise ce rapport à son travail de danseuse et à la fois à son art de danseuse en l'utilisant comme chorégraphe pour questionner le rapport entre un danseur et une machine. Comment ils dialoguent? Alors, ce qui est très évidemment singulier aux arts numériques, c'est que nous sommes dans un non plus un art où l'on reproduit ce qu'on en a travaillé en studio, mais on est en ce qu'on appelle en temps réel. Mmh. C'est un art génératif, c'est-à-dire que nous nous trouvons avec ce dialogue avec la machine, c'est aléatoire. La machine répond, elle va répondre en anglais.
Un jam en fait.
Voilà, et il y a une espèce de confrontation avec la machine qui est en temps réel, qui se passe devant nous, et on ne sait pas où ça va atterrir, et c'est ce qui fait l'enjeu finalement de voir que elle, avec cette chorégraphe, avec son corps, est capable de travailler ce qu'on appelle aussi dans l'art numérique un art augmenté, c'est-à-dire nous faire ressentir de sa respiration le moindre élément de rythmique de son corps, et en même temps être dans ce rapport avec la machine où elle dialogue avec cette machine, va se confronter avec elle. La machine, on va penser que la machine prend possession de, et bien commande, et ça n'est pas le cas.
Alors on l'a évoqué pareil en tout début d'interview, notamment la notion d'immersion, d'implication des publics. L'un des grands thèmes du festival Born Numérique était la réalité virtuelle. Est-ce que vous pensez que ça c'est un champ qui va tout chambouler dans l'art numérique, la conception de l'art numérique?
Je crois que la réalité virtuelle va changer nos modes d'abord de rapport au monde finalement, puisque nous sommes à la fois physiquement dans un lieu et nous sommes ailleurs, parce que nous, avec ces casques qui sont ces casques immersifs finalement de technologies immersives, sans rentrer dans les détails, mais ce sont des casques qui nous permettent finalement d'aller vers dans d'autres paysages finalement, des paysages qui sont créés et qui s'apparentent beaucoup aux métiers du cinéma, parce que les métiers du cinéma, ce qu'on appelle les VFX dans le jargon des métiers du cinéma, c'est-à-dire les effets spéciaux, finalement se sont mis aussi, ce sont des technologies et des techniques qui sont maintenant complètement hybridées, c'est-à-dire qui les unes influencent les autres, leur esthétique, leur message, leur façon de... Donc les réalisateurs aujourd'hui sont face à une nouvelle aventure, c'est-à-dire que face à un écran de cinéma, on écrivait, on réalisait un film, on dit dans la règle des 180 degrés, mais là nous sommes à 360 degrés, et c'est le spectateur qui dirige son regard, et c'est lui qui décide d'aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Et je vais prendre un élément qui est tout à fait formidable dans le cadre de cette biennale, c'est de voir un projet dans lequel il y a la possibilité pour le spectateur de se représenter, de se retrouver dans un paysage avec une perspective, une représentation naturelle, et en même temps avec ses gestes, avec sa main, de pouvoir dessiner dans l'espace et de voir ce dessin se produire dans l'espace dans lequel il est immergé. Ça, c'est quelque chose qui invite le spectateur à être un acteur, mais un dessinateur, et participer à une réalisation et d'être dans un nouvel espace.
Et bon, on l'a compris, le spectateur plus que jamais demain, acteur de l'art numérique. Merci beaucoup Dominique Roland pour cet éclairage sur l'art numérique. Je rappelle, vous êtes directeur du festival Born Numérique et du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux. Merci Lila et merci à vous. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier et ce sera donc notre dossier de l'atelier et notre World Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants sur BFM Business, ça sera notre World Tour. Est-ce que la culture chinoise peut être un frein au e-commerce en Chine? Aurore Géraud nous en parlera dans un instant. Mais auparavant, notre dossier de l'atelier US, réalisé ici à San Francisco avec vous, Arnaud Auger. On va parler de Family Tech cette semaine.
Oui, je suis donc avec Sam Hickman à San Francisco, qui est un père de deux enfants et accessoirement entrepreneur. Et en effet, comme de nombreux entrepreneurs du web de la première génération qui deviennent parents, il rencontre des problèmes de parents et il crée des startups pour les parents. Et il a donc créé Joy. Bonjour Sam.
Bonjour Arnaud.
Alors qu'est-ce que Joy?
Alors la mission de Joy, c'est d'aider les familles à vivre en harmonie grâce à la technologie. Nous faisons partie de cette tendance Family Tech et vraiment nous voulons réinventer la façon dont les parents partagent leur temps avec leurs enfants, d'éviter le stress, d'éviter les conflits et de les aider à partager uniquement des bons moments.
Alors concrètement, comment ça marche?
Donc concrètement, c'est la mise en place d'outils digitales pour aider les enfants dans la vie physique. Et à ce titre, nous avons créé Octopus, une petite montre entièrement basée sur des icônes pour les enfants de 3 à 7, 8 ans qui ne savent pas encore lire, pour leur apprendre le concept du temps et les bonnes habitudes. Donc, je Prendre un exemple, ma fille de 4 ans avait des difficultés à se brosser les dents toute seule. Il fallait sans cesse qu'on lui répète « va te brosser les dents, va te brosser les dents ». Avec cette montre, à 7h15 le matin, une petite vibration et un icône représentant une brosse à dents, et d'elle-même, elle va se brosser les dents. Nous, on reçoit une alerte sur notre téléphone portable, on peut veiller et surveiller son action, et il y a même une partie optionnelle de gamification, vraiment pour motiver l'enfant. Mais je dirais qu'une fois que la tâche a été assimilée par l'enfant, au bout généralement de 2 à 3 semaines, on passe à une autre tâche qu'on veut lui inculquer.
Justement, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner des outils de productivité pour les enfants? Est-ce que vous n'êtes pas en train de leur voler un peu leur insouciance?
Non, alors je pense pas. Je pense plutôt que c'est le contraire. En leur donnant les outils d'organisation, ça va leur donner confiance en eux. Ça va leur permettre d'être plus indépendants, d'avoir également plus de responsabilités, certes, mais c'est plutôt un bien. Et ça va leur dégager plus de temps pour passer avec leurs amis ou leurs parents.
Justement, ça permet aux parents d'être de moins crier et de plus être dans l'affectif.
Oui, absolument, tout à fait. C'est-à-dire que on voit souvent dans les familles une sorte de conflit permanent parce que l'enfant n'est pas coopératif. Avec ce genre d'outils, ça permet aux parents d'être de faire preuve de régularité dans le maintien de routines journalières. Ça a été prouvé par 50 ans d'études psychologiques. Avoir des routines dans une famille, c'est très très bénéfique.
Comment est-ce que vous êtes rendu compte que beaucoup de parents pouvaient avoir les mêmes problèmes et pourraient être intéressés par cette solution?
Alors, ce produit, on l'a en tête depuis pas mal de temps. On en a bien évidemment parlé autour de nous, auprès de nombreuses familles. Ça accrochait pas mal. Et ensuite, on a décidé de créer une communauté un peu plus formelle. On s'est servi de Facebook, pour pas le nommer. Et plus on parlait avec les familles de divers horizons, et plus on a découvert de cas différents, et notamment les familles d'enfants atteints de maladies dites mentales telles que les trisomiques, les autistes, les hyperactifs nous ont dit « mais ça c'est un outil fabuleux qui va nous permettre de suivre des routines journalières strictes, de rassurer les enfants dans leur organisation journalière ». Donc ça nous a même encore plus motivés pour aller de l'avant et pour faire de notre mieux avec ce produit.
Vous en êtes où alors aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, nous en sommes au stade de prototype fonctionnel. Mon équipe a fait un superbe travail. Mon associé, Omar Alaouf, a fait un phénoménal travail au niveau technique. Et nous sommes sur le point de lancer la fabrication.
Vous avez fait comment alors ?
Pour fabriquer un produit, la Chine reste encore le point central. Donc on a décidé d'aller en Chine. On a décidé également de se faire accompagner. On a postulé chez Axe, le plus grand accélérateur hardware créé par un Américain et un Français. On a été sélectionné et ils nous ont envoyé 4 mois à Shenzhen, au cœur de la Silicon Valley du hardware, à environ 40 minutes au nord de Hong Kong. Et là, on a pu énormément apprendre sur le processus de fabrication. On a pu rencontrer plein d'usines, on a pu se faire accompagner. Et ça nous a conduit à faire de grandes économies à la fois de temps, d'énergie et d'argent.
Alors, quelles sont les prochaines étapes ?
Nous sommes en plein dans la campagne Kickstarter. Et là, j'en appelle à la générosité de vos auditeurs. Si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, écoutez, n'hésitez pas à nous soutenir, ce serait génial. Notre monde, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un gadget. On a limité le nombre de distractions. Il n'y a pas de vidéos, de jeux vidéo. Il n'y a pas d'outils de communication. C'est vraiment une montre pour les enfants. On a besoin de votre soutien pour mener à bien cette campagne et pour faire bénéficier de ce produit, si possible, à des millions de familles. Cette montre est disponible pour un prix très attrayant.
Combien ?
Vous pouvez l'obtenir pour 69$. Donc ça doit faire à peu près 60€.
Et au-delà de le vendre en ligne, est-ce qu'on peut imaginer le voir prochainement sur les rayons de la Fnac ?
Ah oui, absolument. Alors la Fnac, Boulanger, Darty ou Best Buy aux États-Unis, ça c'est un rêve qu'on aime cultiver. C'est vraiment un objectif pour pas le cacher.
On espère qu'on vous retrouvera au-delà de la Silicon Valley sur les rayons des grands distributeurs français d'électronique. Merci Sam et à très bientôt.
Merci Arnaud de m'avoir reçu.
Arnaud, merci. Et après la Californie, direction la Chine et l'e-commerce avec vous, Orangero. On va s'intéresser justement à la culture chinoise. Est-elle compatible avec l'e-commerce ?
Nous recevions il y a quelques semaines Hervé Bloch, PDG de Digilinx, pour parler de son événement Big Boss, qui réunit dans un endroit paradisiaque les patrons du digital, du e-commerce. Et j'ai eu la chance de me joindre à eux cette année en Crète. Et pour le World Tour de cette semaine, étonnamment, ce ne sera pas sur la Crète, mais sur la Chine. Avec moi aujourd'hui Stéphane Rouquette, qui est Managing Director de Azoya. Stéphane, bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qu'est Azoya ?
Qu'est-ce qu'on fait ? On est du spécialiste du cross-border. Et en fait, on prend des e-commerçants et on les développe, on va développer leur site sur le territoire chinois. Et le cross-border, en fait, c'est du transfrontalier. C'est le fait de dire, on prend de mon entrepôt en France, j'envoie directement au consommateur chinois. Donc, j'ai pas besoin d'avoir d'entrepôt intermédiaire ou ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les Chinois, ils veulent acheter un cross-border? Et il y a trois raisons principales. La première, c'est de dire, ils sont au fait qu'en Chine, il y a beaucoup de copies. Donc ça, ils sont pas fous quand même. Et ce qu'ils veulent, en allant acheter dans d'autres pays, c'est pouvoir se garantir l'origine du produit. Donc, ils se garantissent que le produit, c'est bien le vrai produit. Ensuite, il y a une notion de prix, d'un effet simplement mécanique. Quand on exporte sur la Chine, on se retrouve à avoir un prix qui est beaucoup plus élevé que quand on le vend en France. Troisième chose, c'est de chercher des produits qui ne sont pas disponibles en Chine. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les trois raisons principales qui font qu'aujourd'hui, il y a une grosse part de la population chinoise qui va chercher des produits à l'étranger.
Et du coup, c'est plutôt vos cibles, des e-commerce français spécialisés ?
Tous les produits ne sont pas aujourd'hui demandés par le consommateur chinois. Beaucoup de produits en parapharmacie, en bien-être de la maman ou du bébé, et les produits gourmets. C'est ce qui est assez marrant. Donc on est vraiment pour l'instant sur ces trois axes-là. Alors pas tous les produits non plus, certaines gammes. Et ce qui est vraiment en train de monter aujourd'hui, c'est le fashion. D'ailleurs, dans les semaines qui arrivent, on va pouvoir lancer nous notre premier site fashion sur la Chine avec un partenaire historique de la France. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui le nom, mais en tout cas voilà. Donc ça va être très affiché et c'est intéressant et c'est vraiment intéressant de voir cette dynamique. Mais je crois qu'on le fait depuis très longtemps nous le cross-border, mais différemment. On va chercher des produits en Chine pour du prix. En fait. En fait, sur les produits où on veut pas de qualité. Et là, aujourd'hui, le consommateur chinois, il a un pouvoir d'achat. Il est au fait de ce qui se passe dans le monde, contrairement à une dizaine d'années. Et du coup, il s'aperçoit qu'il peut avoir accès à plein de choses en souvent au monde.
Et quelles sont actuellement les barrières que peuvent rencontrer les e-commerce français pour s'implanter en Chine, hein, en dehors de la langue, ce genre de choses?
Les barrières principales, ça va être aller en Chine sans partir avec une structure chinoise. Et ne partez pas seul en disant « Oh, mais je vais aller en Chine comme je vais développer l'Allemagne ou la Belgique, ça ne fonctionnera pas. » Il y a des barrières de langue, il y a des barrières culturelles surtout. C'est connaître les modes de consommation des Chinois. Ils ne consomment pas du tout de la même façon que nous. Ils sont très mobiles. Vous avez une application qui s'appelle WeChat en Chine. Ils font tout avec WeChat. Mais quand je dis tout, c'est tout. Voilà. Ils font du shopping jusqu'à payer une pizza ou à payer le restaurant, réserver un billet d'avion, un taxi, des groupes de travail professionnels. Moi, j'étais obligé de me mettre sur WeChat pour pouvoir travailler avec eux. Les Chinois travaillent beaucoup en réseau. Donc, ils vont beaucoup travailler en recommandation, ce qu'ils appellent le guanxi. Et pour des produits, pour la décision dans un acte d'achat, la décision finale viendra aussi de son entourage. Moi, j'ai des amis chinois, quand ils sont à l'étranger, ils vont prendre une photo de leur produit, ils mettent ça sur WeChat en disant aux amis, tiens, est-ce que quelqu'un connaît ce produit-là? Je le connais pas. Et en fonction des commentaires qu'il va recevoir, il va décider de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Donc, ils sont beaucoup sur la recommandation dans leur entourage, dans le réseau. Et après, sur certains blogs influenceurs aussi. Et là, nous, ça fait partie de certains outils marketing qu'on va développer pour pouvoir garantir à nos partenaires d'optimiser le développement de leur chiffre d'affaires.
Oui, j'allais dire aussi, d'un point de vue culturel, peut-être la com, est-ce que c'est perçu d'une autre manière? Est-ce qu'on est plus frontal? Est-ce qu'on l'est pas?
La com est clairement différente. Nous, on est encore un peu plus différent parce qu'on s'adresse à du cross-border. Donc, ce qu'on fait, on fait pas de la communication de masse. Les Chinois sont très friands des offres. Alors, je sais pas, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, c'est que ma toute petite théorie, qui est peut-être toute fausse d'ailleurs, mais c'est de me dire culturellement, c'est un peuple qui négocie, qui aime négocier. Ils aiment tout le temps négocier. Et en fait, quand on leur met des offres, ils ont l'impression d'avoir gagné comme une négociation, vous voyez, mais face à une marque, face à une société. Plein d'amis que j'ai, le soir, ils sont au lit, ils sont sur WeChat et ils regardent les offres qu'ils ont eues dans la journée et ils décident d'acheter simplement en un clic ou deux clics, voilà. Et parce que WeChat fait aussi moyen de paiement, donc voilà, on fait tout avec. Et il y a cet aspect culturel, il faut vraiment être sûr de la promotion.
Au-delà du mobile, au-delà du réseau social, comment on se démarque pour par rapport à une marque qui serait chinoise?
Ça, c'est une très bonne question parce que on a le cas de certaines sociétés qui m'approchent, qui me contactent pour me demander ou pour me dire tiens, moi je voudrais me développer en Chine, donc ce que je fais, c'est que je m'adresse aux équipes marketing en Chine et je leur dis voilà, telle société voudrait se développer avec nous en cross-border, et ils me disent ouais mais ça c'est du mainstream et puis on trouve déjà chez nous, donc il n'y a pas que le côté luxueux, luxe qui les intéresse, mais il faut qu'il y ait un certain design, une certaine il y a des valeurs qui passent derrière une marque, et je crois que ça c'est aussi des éléments qui sont assez important. Ils veulent, pour eux, le fait d'acheter un produit, c'est aussi de la reconnaissance sociale qu'ils vont pouvoir apporter. Et donc, on a besoin de ça. Donc, c'est pas, il n'y a pas que le luxe, mais c'est qu'est-ce que la marque va représenter. Et donc, je vais m'affilier énormément à cette marque-là. Donc, ils sont très dans le paraître. En même temps, c'est un pays qui s'est ouvert il y a pas si longtemps que ça. Et je pense que quand on a passé 25 ans de sa vie à voir des choses auxquelles on ne peut pas avoir accès, ben, à un moment donné, on dit, ben, tiens, je dépense. Et ils dépensent énormément d'argent en plus. La logique d'épargne, c'est pas quelque chose qui est encore chez eux. Ils sont vraiment, je dépense. Et ça, c'est bien. Mais pour se démarquer, du coup, il faut représenter quelque chose. Voilà. Si on fait du mainstream, ça ne fonctionnera très probablement pas.
Merci.
Merci.
Aurore, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Vous restez là, hein, tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Il est temps de retrouver notre web stratégie de cette semaine. Et Aurore Géraud, pour ce samedi, focus sur une société qu'on connaît bien. On va s'intéresser à la stratégie numérique de Pizza Hut. Aurore.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Alors je suis au Big Boss encore avec Olivier Guillot qui est Head of Digital Europe pour Pizza Hut. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Bon, alors on va parler de Pizza Hut. On va demander d'abord quand a commencé la digitalisation chez Pizza Hut.
Alors la digitalisation chez Pizza Hut a commencé il y a un très long moment, puisque le premier site e-commerce dans le monde était un site de vente de pizza. Donc c'était aux États-Unis. Et donc avant même que Google ou Netscape existent, le premier objet vendu sur Internet était une pizza. Ça, il faut le savoir, c'était aux États-Unis. Et donc on a commencé il y a très longtemps. Après la digitalisation s'est faite à une vitesse différente en fonction des pays, bien évidemment.
Donc on voit ces dernières années beaucoup de concurrence, hein, à l'Oresto, Deliveroo. Comment on se démarque quand on est une marque comme Pizza Hut?
Alors, ce sont des concurrents, mais à la fois des partenaires. On travaille avec Alloresto, on travaille avec Just Eat. Ça représente parfois une bonne partie du chiffre d'affaires en fonction des pays sur la livraison, sur le chiffre digital. Évidemment, ce sont aussi une sorte de concurrence, puisqu'il faut qu'on ait le même niveau de service et meilleur qu'eux. Et donc, il faut nous renouveler et donc ça nous permet de se challenger en interne. Ouais. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette émulation, puisque ça nous force à bouger.
Sur quelle plateforme vous naviguez chez Pizza Hut?
Alors nous, on a plus de 50-60% du trafic qui vient du mobile. Donc le mobile est essentiel et en forte croissance. On a un public évidemment de jeunes. Et donc on doit avoir un mobile mindset d'abord, avec des sites responsive design, ce qui n'était pas toujours le cas et ce qui n'est pas encore le cas pour l'ensemble des pays européens dont je m'occupe. Donc mon premier objectif, c'est déjà de s'assurer que on a une réponse mobile aux internautes qui cherchent à commander et à se faire livrer ou à chercher un restaurant près de chez eux.
Et du coup, en ligne, vous avez aussi le site web. Qu'est-ce qui fonctionne le plus, le retrait en magasin, la livraison?
Alors nous, on est. Ce que l'on voit, c'est qu'en livraison, le digital est essentiel. C'est-à-dire que quand les gens veulent se faire livrer une pizza, ils vont sur Internet. On a des chiffres et la concurrence, elle est même dans certains pays qui avoisinent les 70%. Et c'est vers là où on va. Donc c'est essentiel. Pour tout ce qui est takeaway, donc vente à emporter, pour le coup, on est plus sur une problématique de de mobilité, c'est-à-dire la plupart des gens vont directement dans le store pour commander, et ceux qui commandent sur internet le font plus en mobilité, c'est-à-dire sur le chemin pour aller vers le store, 5 minutes ou 10 minutes avant, sur le chemin où ils vont vers le restaurant, ils commandent en mobilité. Voilà.
Donc c'est plus de l'immédiateté en fait.
Oui, tout à fait, c'est plus de l'immédiateté, alors que la livraison, on est vraiment sur un parcours full digital. Après, on essaye de mettre en place des outils et des KPIs pour mesurer également le trafic grâce aux store locators, grâce au site web qui va dans les restaurants, manger dans les restaurants. Donc avec des solutions type store locator pour mesurer le nombre de personnes qui affichent le numéro, le nombre de personnes qui affichent le plan, pour voir l'intérêt du digital également pour les restaurants.
Je crois que vous avez fait une refonte de votre site web il y a un ou deux ans, c'est ça ? Récemment. Quel mécanisme on met en place pour ça ?
Alors nous, on a des parcours clients, on travaille sur des parcours clients optimisés au niveau mondial, parce que ce qu'on voit, c'est, à l'instar d'Amazon, ou des grosses sociétés comme cela ou Apple, qu'il faut avoir une constance, et ce qui marche dans un pays marche dans un autre pays en termes de parcours client. Ce qui ne marche pas dans un pays ne marche pas dans les autres pays. Donc, bien que chaque marché soit différent, bien évidemment, en termes d'offres, en termes de prix, etc., le parcours client est le même. On veut que ce soit facile. Donc, la facilité d'accéder aux produits et de la facilité de commander est essentielle. Et du coup, on travaille sur des parcours clients optimisés qu'on donne ensuite à nos franchisés pour qu'ils installent dans leur refonte de site web ce parcours client optimisé avec tout le package graphique et le design qui va avec.
Et est-ce qu'il y a une place pour le client et ce choix ? J'ai une étude de son comportement ou...
Aujourd'hui, on est sur... alors, on parlait de la personnalisation, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a prévu de mettre en place des solutions de testing pour notamment avoir un parcours client différencié si c'est un nouveau client ou un ancien client. On a une logique de cookies que l'on met en place quand un client a déjà cherché un restaurant et qu'il retourne et qu'il a déjà commandé quand il retourne sur le site web, même s'il n'a pas créé de compte, on lui propose par défaut son dernier restaurant. Après, sur les applications mobiles ou hybrides, on a toute la logique de recommander facilement. Donc on est dans cette facilité d'accès évidemment en personnalisant. Donc on y va doucement mais sûrement avec ce qu'attend notre client, donc pouvoir recommander encore plus facilement que la première commande.
Il y a quelques mois, Sébastien Chaplin, qui est donc le DG France, parlait de la concurrence d'Uber Eats et parlait d'une livraison peut-être géolocalisée. Comment on innove dans la livraison ?
Alors nous, on innove dans la livraison en s'inspirant évidemment de ce que font les autres. Uber Eats a lancé d'abord aux États-Unis et puis a fait des expérimentations à Paris. Nous, on travaille également sur la géolocalisation. Le site allemand qui va sortir dans quelques semaines, on pourra par défaut se géolocaliser très facilement sur son mobile, etc. Il y a déjà des fonctionnalités de géolocalisation sur le site français et on est dans une logique évidemment de facilité d'accès. On veut pas avoir à rentrer son adresse, donc un peu comme à la Uber Eats, on veut pouvoir dire voilà, je suis ici, venez me livrer ici, et en fait la géolocalisation permet de reconnaître l'adresse et ensuite on ajuste. Si on n'habite pas au 10 mais au 12 de telle rue, on n'a plus qu'à mettre le 12, mais on n'a pas à mettre le code postal, la ville et ou le nom de la rue. Donc, et ça c'est un gros frein aujourd'hui. De débloquer cela permet d'augmenter la conversion en ligne. Donc c'est évidemment intéressant. Et après on regarde aussi. Hein, on a en Israël par exemple, on a des solutions où le client peut voir où en est de sa livraison précisément, où est son livreur, quand le livreur arrive, etc. Donc on a des logiques on a des solutions à l'instar d'Uber qu'on est en train de déployer dans plusieurs pays dans le monde.
Et c'est plus facile de tenter ce genre de choses en Israël plutôt qu'en France ?
Israël a choisi un prestataire et a intégré ce prestataire. Nous on a signé au niveau mondial avec ce prestataire pour déployer dans les autres pays. Après, ça dépend toujours du système d'information en point de vente. Et du coup, il y a un interfaçage avec le système d'information en point de vente. Donc l'informatique, on va dire, nous rattrape comme on n'est pas uniformisé d'un pays à un autre, on met plus de temps aujourd'hui pour déployer des nouvelles fonctionnalités web, parce qu'on est freiné évidemment par le legacy de chaque pays.
Et du coup, parlons un petit peu du restaurant 2.0. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tests qui avaient été faits ces dernières années, notamment une table interactive où on peut personnaliser, je crois que c'est en Angleterre, il me semble, des possibilités de gamification avec des commandes via le visuel et le robot paper en Asie. Alors, c'est quoi la suite ?
Alors, il y a beaucoup de tests. On a testé aussi le fait de pouvoir commander par tweet ou de pouvoir commander par Facebook ou avec sa PlayStation. Ce qui est important, c'est de voir ce qui fonctionne. Parce qu'au-delà du buzz, hein, comme peut faire certains de nos concurrents, ce qui est important, c'est de s'assurer que sur la partie livraison, bah, voilà, il y a beaucoup de buzz, mais le mobile est essentiel, hein. Pour la partie restaurant, on veut réenchanter l'expérience en magasin, l'expérience en restaurant, avec effectivement, vous parliez de, il y a des idées comme les tablettes interactives où nous on regarde ce que font, ce qui se fait dans la restauration. Donc on fait le mois dernier par exemple, on était à Londres et on a fait un discovery des nouveaux concepts à Londres. On a vu des concepts très intéressants comme la société Inamo, qui est une société de sushis, enfin de produits asiatiques, où ils ont complètement digitalisé l'expérience client avec la possibilité de choisir son menu sur des tablettes interactives, d'avoir une vue sur la cuisine. Et plein de goodies et de fonctionnalités et de services associés. Et donc on s'inspire de cela pour réfléchir à effectivement demain comment réenchanter nos restaurants pour que les clients aient une vraie expérience encore plus énergisante et qu'ils passent un moment au-delà de simplement manger une pizza, qu'ils partagent une véritable expérience.
C'est quoi vos chantiers pour les mois à venir?
Sur la partie restauration, on a sur la partie web, on a évidemment la partie store locator qui est essentielle. Donc là, on est plutôt dans les basiques. Et puis après, il y a des pépites que ce soit dans les restaurants ou dans des lieux un peu plus insolites. Mais là, ça reste de l'ordre du secret. Donc vous verrez dans les mois à venir comment ça va se passer. Après, on a aussi un nouveau concept qui est le concept, enfin pas un nouveau concept, mais un concept qu'on redéploie, qui est le concept express, qui est la part de pizza, avec en France ou dans d'autres pays où on va développer davantage cela. Donc c'est principalement dans les centres commerciaux ou ce genre de choses. Là, on est encore dans un autre concept avec et quelle est la place des kiosques. Voilà. Donc il y a évidemment un digital in-store également qui est assez intéressant à voir, qui est différent de la restauration et qui est différent de la livraison.
Merci beaucoup Olivier Guillot, donc je rappelle Head of Digital chez Pizza Hut.
Merci à vous et bonne journée.
Aurore, merci, et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Vous restez avec nous, à tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique, encore quelques minutes à passer ensemble avec le crash test, bien sûr, en point d'orgue de ce rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Le point de départ de ce crash test avec Antoine Cyr dans quelques minutes, ce seront les femmes à barbe. Eh oui, ça paraît bizarre, mais vous verrez, c'est passionnant. Mais dans l'immédiat, notre décryptage, le patron de Nest va quitter Nest. Peut-être l'avez-vous lu cette semaine, c'est vrai que c'est une information qui a quand même un peu bousculé la Silicon Valley cette semaine. La révolution des objets connectés commence à peine. On en parle avec vous, Guillaume de Groisse.
Bonjour François, bonjour à tous. Alors, comme vous êtes en Californie avec toute l'équipe de l'atelier à San Francisco, cher François, vous n'avez pas pu manquer le départ du patron de Nest, Tony Fadell, qui avait été gardé à prix d'or par Google lors du rachat de Nest. Bien sûr, tous les médias en ont parlé, et pas seulement les médias qui s'intéressent au monde du digital. Tony Fadell, c'est un peu une star dans le monde du digital. Il a tout de même été l'ingénieur, puis le patron, derrière le succès de l'iPod d'Apple, excusez du peu, et il a quand même à son actif plus de 300 brevets. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ensuite lancé le thermostat connecté Nest, racheté par Google pour plus de $3 milliards. Et quand en 2015, après le demi-échec, on va dire, de ces lunettes connectées, les Google Glass, Google cherche un nouveau souffle, c'est Tony Fadell qu'on appelle. Alors, oui, il s'en va. Certains disent que les résultats sont décevants et qu'Alphabet, la holding de Google, l'a poussé dehors. Une thèse accréditée aussi par l'énorme bug de janvier dernier. Lors d'une mise à jour, le thermostat Nest avait tout simplement perdu la boule et ne répondait plus à ses utilisateurs. D'autres disent que le fonds de rétention que Google avait créé pour garder Fadell et les ingénieurs de Nest arrive tout simplement à épuisement. Bon, difficile de savoir qui a raison. Mais alors qu'il s'en va, il a annoncé qu'il a discrètement investi ces dernières années dans pas moins d'une centaine de start-up. Alors bien entendu, on a hâte de voir lesquelles, car le bonhomme est un véritable visionnaire qui a l'art de transformer ce qu'il touche en or. Je trouve même que les commentateurs n'en ont pas assez dit. À l'occasion de cette annonce, il faut rappeler à quel point Tony Fadell aura marqué son époque. Il aura été un peu le Léonard de Vinci du digital des années 2000, toute proportion gardée, bien sûr, et ça me paraissait utile de le rappeler. Mais au-delà de ce départ déjà largement commenté, je voulais surtout souligner une chose. S'il part de Nest aujourd'hui, c'est que le thermostat connecté est déjà dans la vie de beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis. C'est devenu un objet du quotidien pour de nombreux Américains. Le marché des thermostats intelligents que Nest et Honeywell se partagent représente pas loin d'un milliard de chiffre d'affaires pour 2015, avec 5 millions de thermostats vendus dans le monde et pas loin de 40% de tous les thermostats vendus aux États-Unis. C'est énorme. C'est un morceau non négligeable aujourd'hui de ce qu'on a appelé pendant des années la domotique, hein, vous savez, l'informatique appliquée à la maison, domaine sur lequel une entreprise française formidable qu'on aime beaucoup à l'atelier Somfy est en train de capitaliser au-delà des traditionnels volets et stores roulants. Les objets connectés, l'Internet des objets, l'IoT pour les experts, le Internet of Things pour les Américains, ce n'est pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui. Regardez chez vous, aujourd'hui vous avez au moins un smartphone, une tablette, une box. Certains ont en plus des alarmes connectées et maintenant des thermostats intelligents. Demain, nos compteurs d'eau ou de gaz, mais aussi nos réfrigérateurs, pourquoi pas nos fours ou même nos casseroles, et d'ailleurs Seb s'y emploie, seront eux aussi connectés. Au départ, nos objets connectés communiquaient assez peu entre eux. Ils dépendaient chacun d'une plateforme différente, celle d'Apple, celle d'Orange, celle de Samsung, celle de Securitas, etc., etc. La grande nouveauté, c'est que de plus en plus, ils vont être mis en relation sur la même plateforme pour être vraiment optimisés, pour que quand je rentre chez moi, mes lasagnes soient cuites, mon vin rouge soit à bonne température, mon eau soit fraîche et mon film sur le point de commencer, tout en ayant prévenu mes enfants que j'allais arriver et qu'il fallait que leur chambre soit rangée. Ce monde que je décris, mon cher François, il n'est pas pour dans 10 ans, il est en train de se mettre en place. Quand l'iPod de Tony Fadell est sorti, cela faisait plusieurs années que lui et les équipes d'Apple y travaillaient. Pour les objets connectés, c'est pareil. Cela fait plusieurs années qu'on en parle, c'est maintenant qu'ils sortent, c'est maintenant qu'ils vont dialoguer ensemble. La chance que l'on a en France, c'est d'avoir des entreprises et des patrons plutôt bons en matière d'objets connectés. Bien entendu, on pense à Sigfox, mais on pense aussi à Pierre Cesarini, un ex d'Apple, qui est en train de redresser AvantQuest et qui vient de conclure un contrat avec Carrefour dans le monde de l'Internet des objets avec sa technologie MyDevices. Comme quoi, en France aussi, on a nos Tony Fadell.
Guillaume de Grosse, merci. On retrouve tout de suite le crash test avec Antoine, comme chaque samedi.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Antoine Cyr, le point de départ de ce crash test est la femme à barbe.
Et oui, la femme à barbe, qui est un concept beaucoup plus geek que vous ne l'imaginez certainement.
C'est vrai.
Alors c'est vrai que des femmes à barbe, il y en a beaucoup dans l'histoire. Il y en a dans l'histoire de l'art. Hein. Il y a notamment un célèbre tableau de José de Ribera qui s'appelle La femme à barbe, précisément, qui date de 1631, dans lequel on voit une certaine Madeleine Ventura allaitant son enfant aux côtés de son mari. Et puis il y a aussi des femmes à barbe aussi. Cinéma, par exemple, il y a un célèbre film qui s'appelle Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning en 1932, qui est un film qui a été tourné dans un cirque où il n'y avait que des monstres de cirque, en tout cas des monstres ou en tout cas des curiosités, des personnes qui étaient des curiosités. D'accord. De cirque. Et donc, à l'intérieur de ce film, on voit une femme à barbe. On la trouve dans la chanson aussi. Il y a une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle La nuit est une femme à barbe. Bon, c'est plutôt poétique. Et puis, donc, effectivement, la femme à barbe a fait irruption depuis déjà un certain temps dans le monde des geeks. Alors d'abord, il faut rappeler que dernièrement, des femmes à barbe, mais là ce sont des barbes symboliques, sont arrivées au sommet des startups. On est début avril 2016, et donc les femmes à barbe s'avancent sur scène, donc avec cette pilosité accrochée à leur menton, voilà. Et se placent derrière les conférenciers avec des pancartes à la main, tout simplement parce que cette première table ronde du sommet des startups présentait une caractéristique qui était que l'essentiel des orateurs étaient des hommes. Et donc c'était la 200e en fait manifestation d'un collectif qui s'appelle La Barbe, et qui est un collectif de femmes à barbe, évidemment de fausses barbes, qui font irruption dans les assemblées où il n'y a que des hommes. D'accord. Qui parlent, mmh, pour dire écoutez, maintenant vous êtes sympa, voilà. Mais on est dans un métier, c'est le cas des startups, où il y a des femmes qui y agissent, et donc il n'est pas normal de n'inviter que des hommes à venir prendre la parole. C'est tout à fait intéressant comme collectif. Évidemment. Voilà, évidemment. Mais donc des femmes à barbe, on en trouve aussi sur la toile qui sont de vraies femmes à barbe. Et il y en a une qui a fait une sorte de roadshow dans les médias, qui a eu énormément d'impact sur la toile, qui s'appelle Arnam Kaur. Donc Arnam Kaur, c'est une femme qui a, elle, une vraie barbe et qui se bat contre les préjugés et les dictates de la beauté en affichant fièrement sa barbe et en affirmant qu'une femme à barbe peut être belle. Alors, d'abord, pourquoi a-t-elle une barbe ? Eh bien, elle souffre du syndrome de Stein-Leventhal, qui est une maladie qui donne aux femmes une pilosité légèrement anormale. Sa barbe a commencé à pousser quand elle avait l'âge de 11 ans. Ah oui. Elle a également du poil sur le torse.
Tiens.
Et oui. Ah oui. Et elle a essayé de lutter contre ça. Elle a failli se suicider.
Ça va être un peu surprenant au début.
Effectivement. Et alors qu'elle avait 16 ans, à un moment, elle a eu une espèce de vision philosophique que personne ne lui a conseillé. D'accord. D'ailleurs. Elle a trouvé ça toute seule. Elle a dit déplace l'énergie que tu pourrais dépenser en t'ôtant la vie, en l'utilisant pour changer ta vie et en faisant quelque chose de mieux. Et donc, elle a décidé d'être elle-même. Alors l'histoire de Arnam Kaur, on la trouve sur le site Terra Femina, hein, donc là aussi effectivement présence féminine forte sur la toile à travers ce site, et elle dit j'ai décidé de garder ma barbe et tenter de me rebeller contre les préjugés. Je me suis dit sois une jeune femme à barbe belle et heureuse. J'ai compris que mon corps m'appartenait, qu'il était à moi et que je ferais tout aussi bien d'aimer inconditionnellement ce corps. Donc c'est un message d'acceptation de soi finalement qui est en train de passer beaucoup sur la toile, puisque Arnam Kaur, qui est anglaise, a un compte Instagram qui est extrêmement suivi, dans lequel elle affiche toutes ses photos dans lesquelles on peut alors il y a à la fois des séances photos qui sont très étonnantes, hein, et qui sont vraiment faites pour la rendre et pour mettre en avant son caractère séduisant. On voit effectivement d'ailleurs que c'est une jeune fille qui a des traits plutôt fins, etc.
Plutôt fin, d'accord. Enfin, oui. Voilà. Bon. Oui, c'est une femme avec une pilosité, on va dire, un petit peu plus développée.
Exactement. Quoi. Alors, évidemment, la présence de Arnam Kaur suscite pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, généralement des réactions très favorables. J'ai vu par exemple une certaine Carly Harley qui avait vu des photos de Arnam Kaur et qui disait au-delà du message de tolérance, Arnam Kaur est quand même extrêmement stylé. Voilà. Donc c'est tout de même très très intéressant, et ce qui est très intéressant, c'est que les réseaux sociaux sont extrêmement puissants dans cette dynamique d'acceptation de la personnalité d'Arnam Kaur. Elle les utilise, elle les a mis en avant pour faire progresser des logiques évidemment intellectuelles qui sont différentes de celles auxquelles on est habitué. Je vous parlais tout
surtout
à l'heure
Instagram qui est un qui est un média on va dire très enfin qui est photo quoi.
Je vous parlais tout à l'heure du film de Todd Browning Freaks. Bon bah c'est un film sur les monstres de cirque. Il n'est pas la femme à barbe n'est pas envisagée autrement que comme étant monstrueuse. Autrefois
une attraction.
Il y avait autrefois une femme à barbe qui dans les cirques français au 19e siècle qui circulait et qui s'était fait connaître comme la femme la plus laide du monde.
Oh mon Dieu.
Donc c'est quelque chose de donc là c'était quelqu'un qui s'était accepté mais qui avait dû se résoudre à s'accepter de manière extrêmement négative. Arnam Kaur propose quelque chose d'évidemment très différent. Alors je ne serais pas évidemment complet sur la femme à barbe si je ne mentionnais pas le cas de Conchita Wurst puisque Conchita Wurst là c'est une personne qui se travestit
Bien sûr, qui est un homme au départ.
Qui est un homme voilà tout à fait qui est un homme déguisé barbu déguisé en femme
qui a remporté l'Eurovision
et qui a remporté l'Eurovision et donc Conchita Wurst a des comptes Twitter, il y a un compte certifié international, il y a un compte français là récemment il y a eu un concert de Conchita, il y a un hashtag qui est Conchita Live pour tous les concerts de Conchita Wurst si vous souhaitez les suivre et donc il y a un hashtag Conchita Live avec récemment des concerts en Autriche qui ont eu beaucoup de succès et donc sur lesquels vous pouvez voir la participation de Conchita Wurst donc sur scène avec pas mal de photos qui sont qui montrent l'évident succès de ces concerts.
Voilà, Antoine. Bon, là, vous, pas un poil qui dépasse.
Ah,
hein,
moi, je suis après,
fraîchement rasé, Antoine.
Je suis totalement glabre.
Complètement.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Merci Antoine pour ce crash test et c'est avec le crash test que se termine cet atelier numérique. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bien sûr un bon week-end. On sera là évidemment samedi prochain, 16h-18h. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous et à samedi.